9h01, le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Et d'abord, la veuve du dissident chinois et prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo, a quitté la Chine. Elle était en résidence surveillée à Pékin depuis la mort de son mari en détention le 13 juillet dernier, il y a presque un an. Liu Xia a donc été libérée ce matin. C'est en tout cas ce qu'affirme son entourage, Dominique André.
Les associations de droits de l'homme et les amis de Liu Xia affirment que la veuve du prix Nobel de la paix chinois est en ce moment à bord d'un avion en direction de Berlin qui a décollé de Pékin à 6h du matin, heure française. L'information est confirmée par le frère de Liu Xia, très impliqué dans le combat de sa sœur. Ce dénouement était très attendu par l'Europe et notamment l'Allemagne, impliquée dans ce dossier. Berlin qui depuis un an demande au régime chinois de faire un geste pour libérer l'épouse de Liu Xiaobo. Âgée de 57 ans, Liu Xia a vécu depuis le décès du prix Nobel de la paix 2010 dans son appartement sans être libre de ses mouvements alors qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Elle souffre d'une dépression grave. Ses amis et les ambassades occidentales en Chine étaient particulièrement inquiets de son état de santé. La poétesse se disait prête à mourir il y a encore quelques semaines. Liu Xia est donc libérée quelques jours avant le premier anniversaire de la mort de Liu Xiaobo, porte-drapeau de la dissidence chinoise, mort en détention le 13 juillet. Un anniversaire qui inquiète les autorités chinoises. L'Allemagne va donc l'accueillir alors que va s'ouvrir à Pékin la semaine prochaine un sommet entre la Chine et l'Union européenne. Cette libération montre aussi que la Chine, dont la relation s'est tendue avec les États-Unis, cherche à se rapprocher de l'Europe. C'est un immense soulagement pour la dissidence chinoise de savoir l'épouse du prix Nobel de la paix en route pour l'Allemagne.
Dominique André à Pékin pour France Culture. Les quatre derniers enfants ainsi que leur entraîneur pourraient être libérés de la grotte inondée thaïlandaise dans la journée ce mardi. Pris au piège depuis deux semaines, les opérations de sauvetage pour les sortir de là ont été très compliquées. 8 des 12 enfants sont déjà sortis indemnes ces derniers jours. Jeremy Hunt est le nouveau ministre des Affaires étrangères britannique. Cet europhile a remplacé hier soir au pied levé Boris Johnson. Partisan d'un Brexit dur, ce dernier avait démissionné un peu plus tôt dans le sillage du ministre du Brexit, David Davis. Et cela à cause de désaccords avec Theresa May et son plan pour sortir de l'Union européenne. Donald Trump a mis fin au suspense cette nuit. Il a nommé à la Cour suprême des États-Unis un magistrat conservateur, Brett Kavanaugh, catholique pratiquant, âgé de 53 ans. Il avait été le conseiller de l'ancien président George W. Bush. L'instance, la Cour suprême américaine, est chargée de trancher sur les questions de société outre-Atlantique. Il est 9h passé de 4 minutes sur France Culture et alors que les derniers candidats au baccalauréat passent pour certains en ce moment leurs épreuves de rattrapage, nous nous arrêtons ce matin sur la plateforme d'orientation Parcoursup, sujet de toutes les critiques en cette fin d'année scolaire. Plus des deux tiers des élèves ont reçu une proposition à ce jour, mais la moitié d'entre eux seulement ont accepté leur affectation. Un constat qui n'épargne pas les filières sélectives comme les classes préparatoires, habituées au contraire les années précédentes. Laurent Champagne préside la commission amont de la conférence des grandes écoles. Ces non-choix auront des conséquences, prévient Laurent Champagne.
On pense que Parcoursup était censé améliorer les choses sur la maîtrise que les candidats avaient de leur choix. Je pense que c'était ça l'ambition principale. Et donc avec la volonté de supprimer un classement a priori des vœux qui faisait que quand on était accepté sur un de ces vœux, ça éliminait d'office tous les vœux qui étaient classés en dessous. Et donc, de fait, en laissant aux candidats toute latitude dans les choix qu'ils gardent, sur lesquels ils veulent garder des opportunités, on a forcément un processus qui est un peu plus lent. Et donc, on le constate cette année. On pourrait imaginer que ceux qui auront des contraintes de mobilité, c'est-à-dire trouver un logement, s'organiser pour la rentrée, seront obligés de s'organiser plus vite que les autres et donc de faire un choix plus vite que les autres. Donc ça peut éventuellement introduire une différence de traitement entre ceux qui peuvent attendre et ceux qui doivent, pour des raisons pratiques, se dépêcher de choisir.
Laurent Champagne, interrogé par Hakim Kasmi. Le gouvernement donne 3 mois à Sanofi pour respecter les limites d'émission sur son site de Mourinx près de Pau, sans quoi ce site ne pourra pas rouvrir. Le groupe pharmaceutique avait annoncé hier la fermeture immédiate de l'usine responsable de rejets toxiques hors normes. Emmanuel Macron était hier devant les parlementaires parlementaires réunis en congrès au château de Versailles. Il a énoncé ses réformes à venir, notamment sur les retraites, la pauvreté ou encore l'islam. Emmanuel Macron qui aujourd'hui s'envole pour la Russie, Saint-Pétersbourg. Il assistera à la demi-finale de Coupe du Monde de football entre la France et la Belgique. Et au-delà du fait que c'est une promesse faite aux joueurs il y a quelques semaines, on peut aussi y voir la tentation d'aller chercher un peu d'oxygène auprès des Bleus pour un président en perte de popularité en ce moment. Cela n'a rien de nouveau, comme nous explique l'historien alsacien Alfred Wahl. Il a beaucoup travaillé sur les liens entre sport et politique.
À partir du moment où le football est devenu une manifestation populaire, le pouvoir politique s'est mis à s'y intéresser. Et en l'occurrence, le président lui-même considérait qu'il était utile d'aller à la finale de la Coupe de France. Et le premier à le faire, c'était Gaston Doumergue, pour 1927. Alors ça, c'est pour la Coupe de France, mais pour la Coupe du Monde, évidemment, les présidents de la République n'y assistaient pas, parce que déjà, les déplacements étaient trop compliqués. Ensuite, Pompidou, il n'en était pas question d'y aller, parce que Pompidou, de notoriété publique, détestait le football comme tous les grands intellectuels de l'époque, n'est-ce pas, qui avaient un mépris de ce sport. Ce n'est qu'en 98 que, pour la première fois, il y a eu le président Chirac qui n'a pas manqué d'ailleurs d'enfiler un maillot de l'équipe de France à un moment donné. Bon, il a été vraiment exubérant. Ça, c'était en 98. Ensuite, en 2006, à Berlin, où les Français étaient en finale. Et donc, aujourd'hui, c'est le président Macron qui est en recherche de popularité vu sa chute dans les temps présents. Il veut aller à Leningrad assister au match contre les Belges.
Alfred Wahl avec Stéphane Robert avant ce match donc à Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Le temps de ce mardi, c'est assez simple, il fera beau partout et des températures estivales, 17 à 23 au nord, 25 à 30 sur le sud.